Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
L'heure des Pro 2, c'est également le vendredi. Je suis ravi de vous retrouver jusqu'à 21h avec mes invités pour discuter de tout ce qui fait l'actualité. Mais à 20h pile, d'abord, on salue Jeanne Cancard pour l'actualité.
L'enquête sur l'utilisation du logiciel d'espionnage Pegasus qui avait provoqué un scandale international confié à un juge d'instruction en France. Le parquet de Paris avait ouvert en juillet 2021 une enquête sur l'espionnage de journalistes français, notamment via l'infiltration de téléphones par le logiciel pour le compte de l'État marocain, ce qu'il conteste toujours. Un mineur a été mis en examen pour l'agression de Raquel Garrido. Il est soupçonné de lui avoir pulvérisé du gaz lacrymogène durant la campagne de l'entre-deux-tours des législatives. Une vidéo postée sur Twitter par la députée montrait un jeune homme courant vers la voiture de la candidate de la NUPES à l'intérieur de laquelle il vidait une bombe lacrymogène avant de prendre la fuite. Sampaoli à l'Olympique de Marseille, c'est déjà fini. Un peu moins de 18 mois après son arrivée, l'aventure prend fin aujourd'hui. L'entraîneur a annoncé aujourd'hui la séparation avec le club d'un commun accord sur fond de divergence à propos du mercato.
Et autour de la table de l'heure des Pro 2 ce soir, Najwa El Haïté, bonsoir à vous, Julien, avocate, vice-présidente de Territoire de Progrès. Elisabeth Lévy, comme tous les vendredis également, bonjour. Directrice de la rédaction de Causeur. Bonsoir chère Elisabeth, bonsoir Patrick Roger, directeur général bonsoir. De Sud Radio. Bonsoir Kevin Bostuet,
bonsoir Julien,
professeur d'histoire géo, c'est bientôt la quille.
Ah oui, et
bon,
j'ai hâte.
Ça fait plaisir. Mais vous allez partir en vacances avec un petit masque. Je vous préviens, cher Kevin, puisque les voyants de l'épidémie de Covid-19 repassent au rouge en France. Plus de 130 000 nouveaux cas sur la seule journée d'hier. Une question qui plane au-dessus de nos têtes. Le gouvernement va-t-il ressortir les mesures sanitaires prises lors des précédents pics ? Dans l'immédiat, le gouvernement, l'exécutif, donc, s'en tient à de simples conseils face à cette septième vague qui accélère. Justement, comment les Français réagissent à l'heure des premiers départs en vacances ? Direction la gare Montparnasse, tout de suite, avant d'en discuter en plateau. Bonsoir, cher Augustin Donadieu. Vous êtes avec Nicolas Vinclair pour CNews. Les premiers vacanciers débarquent en gare Montparnasse. Donc, les Français prennent-ils leurs précautions ?
Eh bien Julien, pas tellement, pas beaucoup de monde ici en tout cas aujourd'hui pour ce premier week-end de départ en vacances n'a pris de précautions. Peu de personnes sont munies d'un masque. Regardez d'ailleurs, on va vous le montrer avec Nicolas Vinclair, cette entrée de la gare Montparnasse, d'où sortent et d'où entrent ces voyageurs. Très peu sont munis d'un masque, alors même que le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, les a invités à vivement recommander le port du masque à la fois sur les quais et dans les trains. Même chose pour les salariés de la SNCF qui, eux, pour le coup, le portent beaucoup plus assidûment. Je vous propose d'écouter la réaction des voyageurs au micro de Nicolas Vinclair. C'était tout à l'heure. Ils nous font part un petit peu de leurs impressions par rapport à ce Covid qui prend de l'ampleur en France.
Il me semble que le Covid commence à revenir, donc je préfère le porter dans le transport en commun, oui.
Je suis aide-soignante et j'ai pas envie de revivre ce qu'on a vécu en 2020. Donc, voilà.
Toujours, voilà, je suis libéré du masque, je le porte pas, mais si demain on doit les remettre dans les transports, je le reporterai forcément.
Alors aujourd'hui, je le porte plus. À partir du moment où ça a été accepté qu'on ne le porte plus, je m'étais dit non, je vais le garder. Puis en fait, finalement, je choisis la facilité et on finit par plus du tout le porter.
C'est recommandé, mais il y en a eu marre pendant tant de mois de l'avoir porté. Donc maintenant qu'on est libéré, on profite.
Si c'était à nouveau obligatoire, oui, on le porterait, mais c'est vrai que maintenant, qu'on est un peu libéré, on l'enlève facilement.
Demain, je dois participer à une réunion de famille et donc je veux me préserver, même si c'est pas trop tard. Voilà, donc déjà, je viens d'une grande assemblée. Là, je vais dans une réunion de famille, donc je porterai le masque dans le train. Mais là, voilà.
Pour certains ici à la gare Montparnasse, mais une employée de la SNCF nous disait tout à l'heure qu'elle remarque quand même que de jour en jour, de plus en plus de personnes le portent, mais ils sont loin d'être majoritaires. En tout cas, ce premier week-end de départ en vacances sera un bon aperçu de ce qui va se passer cet été, parce que la SNCF n'attend pas moins d'1,2 million de voyageurs dans ses trains grande ligne ce week-end.
Et ça fait beaucoup de monde à masquer, n'est-ce pas, chère Elisabeth Lévy ? Qu'attend le gouvernement pour rétablir les obligations, peut-être la peur de voir les Français gronder.
D'avoir un ministre de la Santé qui soit là pour faire autre chose que gérer les affaires courantes. Déjà pour commencer, puisque Madame Bourguignon selon une règle que
va être remplacé très prochainement.
Je trouve absurde, mais. Oui.
On en reparlera. Alors, on a un dossier remaniement tout à l'heure, mais gardez-la pour tout à l'heure.
On a déjà parlé, mais bon, bref, selon cette règle, elle va partir. Bon, par ailleurs, moi, ce que j'entends, mais je ne crois pas, j'ai un peu de mal à les croire sur parole, surtout, je dois dire, ce que j'entends, c'est maintenant, nous allons faire confiance à la responsabilité des gens. Par exemple, je vais vous le dire, moi, qui suis vraiment, je déteste les masques, et je, même quand il était obligatoire dans la rue, je ne l'ai jamais porté. Parce que
c'est une rebelle.
Non, je refuse d'appliquer une règle idiote, c'est vrai. En revanche, dans un train bondé, si c'est obligatoire, si j'ai à côté de moi des gens un peu âgés ou des gens que ça peut effrayer, parce que...
Mais encore une fois, c'est une question de bon sens. Ouais. Et au stade où nous en sommes...
Dans un train bondé ou dans le métro, si vous voulez, je ne veux pas faire peur aux gens, de fait. Donc, mais Patrick vous a apporté un cadeau que je vais lui piquer.
Qu'est-ce que vous avez, Patrick ?
Alors non, oui, j'ai fait des petits...
Vous êtes fait tester aujourd'hui avant de venir ?
Avant de venir. Et alors ? Avant d'être à côté d'Elisabeth Lévy, ouais. Il est positif, Elisabeth.
Vous êtes positif. Non, mais...
Vous êtes enceinte.
Non, il est bien négatif.
Ça arrivera un jour.
Mais je pense que c'est à chacun, justement, de faire preuve un peu de responsabilité.
Oui, exactement.
Mais pour la SNCF... Et regardez ce que j'ai dans la poche, évidemment, aussi. J'ai mon petit masque, et donc on doit tous l'avoir. Non, mais c'est une question de bon sens, vous l'avez dit. Plutôt que de rendre les choses obligatoires, c'est ce qu'il faut faire. Moi, ce qui m'étonne quand même pour la SNCF, d'un petit mot, les billets de train, vous avez vu, c'est quand même assez cher. Hein.
Ah oui.
Ils ont explosé. Je pense qu'ils pourraient mettre un petit masque à l'entrée en fait, des trains. Je ne sais pas s'ils l'ont fait, je ne crois pas. Ça, ils pourraient très bien le faire pour l'ensemble en fait, des passagers. Et d'autant que dans les transports, moi, je connais beaucoup de gens là, qui ont été contaminés à travers les transports, en prenant à chaque fois le train, etc. Donc, là,
les conseils de Patrick Roger sont moins chers que les grands cabinets américains. Il faudrait peut-être les saisir.
J'en verrai quand même la facture.
Oui.
Oui, c'est des bons conseils. Non, mais moi, je trouve que le gouvernement a raison quand il en appelle au bon sens, à la responsabilité.
Et on va pas se mentir, Najwa Laïté, vous qui représentez, je le rappelle à nos téléspectateurs, la gauche de la majorité présidentielle sur ce plateau, il y a une forme de crainte de... Oui, le gouvernement, Emmanuel Macron, ne peuvent plus se permettre de poser de telles restrictions, les Français ne l'entendraient plus, ne le comprendraient plus. Ce serait totalement contre-productif.
Non, mais ce serait
à l'Assemblée, ça ferait du
fond. Et puis même, je vais vous dire, pour des raisons économiques aussi, enfin...
Il n'y a plus la gravité qu'il y a eu quand on regarde...
On parle quand même d'une... On est quasiment tous vaccinés. Enfin, je veux dire, il y a un taux de vaccination important.
Il est plus contagieux, mais moins grave aussi.
Honnêtement, j'en sais rien.
Les médecins le disent.
Je ne sais pas, est-ce qu'il n'y en a plus à l'hôpital ?
Non,
mais il y a une petite crue, là.
Oui.
Certains parlent quand même d'une septième vague.
Je sais pas si on a le tableau de bord.
On parle de 60 000 contaminés par jour, c'est quand même...
Ah, mais là, on est à 133 000, là, sur la journée d'hier. On est entre 130 et 150 sur les derniers jours. Tiens, aujourd'hui, 125, ça a baissé de 8 000.
Et vous croyez qu'on va nous donner ces chiffres tout le temps pendant des années ?
Si vous les cherchez, vous les aurez.
Je veux bien terminer mes propos.
Pardon, Najwa, allez-y.
Vous avez aussi la Fédération des hôpitaux publics qui estime qu'il faut rendre obligatoire le masque dans les transports publics. Mais attendez, je dis pas que...
Il y a encore des enfermistes.
Ah, mais c'était pas contre vous. Ça y est, vous avez les enfermistes
en même temps. Ils sont de moins en moins nombreux, les enfermistes, quand même.
Et il y a encore, en effet, des médecins qui tirent la sonnette d'alarme. Donc, moi, voilà, je suis satisfaite que le gouvernement fasse ce choix-là, parce qu'il faut faire preuve de responsabilité, reprendre nos gestes barrières, se laver les mains, ouvrir les fenêtres quand on est dans des lieux fermés. Voilà, c'est du bon sens.
Et vous savez, ça doit s'arrêter là. Se laver les mains, c'est pas mal, même quand on est hors Covid.
Mais je connais beaucoup de gens qui se lavaient les mains déjà avant le Covid.
Oui, c'est vrai.
Kevin,
moi-même, j'ai dû le faire une fois.
Ça nous est arrivé, ouais.
Moi, j'en ai marre de ce ton alarmiste. Ça y est, c'est retour vers le passé. Les peines à jouir du sanitairement correct sont de retour tout de suite. Non, mais on nous présente une situation comme étant cataclysmique. Moi, je suis désolé. Tout d'abord, les épidémiologistes disent que c'est incapable de modéliser. Oui. Parce qu'on est incapable de prévoir. Parce qu'entre ceux qui ont eu deux ou trois vaccins, entre ceux qui ont déjà eu le Covid, en fonction des variants, etc., on est incapable de prévoir. Donc, quand on est incapable de prévoir, on sait très bien que dans une semaine, les écoles vont à nouveau fermer, que les entreprises vont être de plus en plus vides, que les Français remettent le masque et utilisent à nouveau le gel hydroalcoolique. Mmh. Moi, j'aimerais bien qu'on en finisse avec ce ton alarmiste, parce que la conséquence, c'est que psychologiquement, les Français ne vont pas bien. Donc, au moment où on a une source de respiration, où les vacances arrivent, si on nous reparle comme ça du Covid, c'est pas possible. Évidemment qu'il faut faire attention. Tout à l'heure, j'ai pris le métro. Oui. J'ai remis le masque. Et vous savez, Julien, que je déteste ça. Oui. Basons-nous sur notre responsabilité individuelle. Et je suis persuadé que nous allons nous en sortir.
Je vais être un peu cynique. Attendez, je vais être un peu cynique, ouais. Elisabeth Lévy. Mais je rappelle que la fin du masque dans les transports, c'était donc le fameux cadeau du gouvernement avant les législatives pour nous faire comprendre que l'épidémie était derrière nous. Mais finalement, alors je ne dis pas que c'est l'unique raison, mais d'avoir enlevé l'obligation du masque dans les transports, ça a favorisé cette septième vague. Attendez, le gouvernement est un petit peu responsable de cette recrudescence des cas.
J'ai le sentiment que la plupart des pays, finalement, ont eu des résultats assez similaires, nonobstant, oui. Si vous voulez, leur choix particulier. Et moi, je suis d'accord avec Kevin, j'ai le sentiment aussi que ce Covid ne va pas disparaître. Donc, non, c'est pour la vie. Vit avec la grippe, voilà. On vit avec toutes sortes de maladies qui ne sont pas des maladies extrêmement graves, même si moi, je vois autour de moi des gens qui, en fait, contrairement à ce que j'entends, ils me disent qu'ils sont vraiment...
Oui, mais ça vous casse. Hein. Ça vous casse pendant bien 15 jours. Hein. Ça vous casse bien pendant 15 jours.
Effectivement, quoi qu'il arrive, on va vivre avec. Alors moi, je ne peux pas vivre, si vous voulez, en regardant, en ayant tous les jours sous le nez des tableaux où on me dit, il y a tant de gens. Est-ce qu'on nous le dit pour les autres maladies ? Donc il faut qu'à un moment, on entre dans la phase de banalisation.
Oui, mais ce qui est dramatique, c'est que d'un côté, vous avez cette banalisation de, certains Français dont vous faites a priori partie. Et puis de l'autre, vous avez quand même ce flou et ces restrictions très fortes, notamment dans le système de santé. Vous savez qu'il y a des gens, quand ils sont hospitalisés, ne peuvent toujours pas avoir des visites, etc. Et c'est vraiment très compliqué à vivre pour certaines personnes.
Alors ça, c'est y compris d'ailleurs, oui. Je crois, pour les accouchements.
Oui,
donc vous avez des jeunes mères qui se retrouvent avec leur môme, elles n'ont pas le droit
d'avoir de
visite. Ça, écoutez, je ne sais pas comment ça se passe.
Je comprends pas, en fait. Hôpital. Je comprends pas, parce qu'il suffit d'avoir un masque, de faire attention.
C'est
toujours
qu'à
pareil.
un moment, on ne peut pas.
Les deux dernières prises de
parole. Comme si c'était... une situation exceptionnelle.
Patrick Roger et Najwa Laïté pour conclure.
Il n'y a pas quelque chose qui vous a choqué mercredi à l'Assemblée nationale ?
Rappelez-moi ça. Mais personne n'avait de masque.
Alors, personne n'avait de masque, ça c'était la première chose. Et la deuxième chose, surtout, alors qu'on doit nous montrer les exemples et qu'on nous a dit, surtout, on ne se serre pas la main.
Ah oui, bah Louis Boyard a montré l'exemple.
Fait que... Oui, Louis Boyard le fait. Mais non, mais moi j'ai vu tous les députés, je leur ai dit, mais écoutez, mais pourquoi vous vous êtes serré la main? Est-ce que c'était vraiment utile de se serrer la main et de se faire la bise?
Ah oui, mais là, on va pas faire l'émission là-dessus non plus.
Mais non, mais ils n'avaient pas du gel. Non, mais à un moment donné, il faut être sérieux deux secondes. Eux-mêmes, beaucoup de politiques avertissent.
Ce que je dis, parce que je fais. On la connaît.
Précaution. Ils sont devant des millions de Français, ils se serrent la main.
Vous avez raison.
Il n'y avait pas de gel.
Moi,
je voudrais bien qu'il y ait en fait une épidémie à l'Assemblée nationale de grosse fièvre pour montrer. Mais non, mais c'est vrai.
Est-ce que je peux vous répondre
à un moment donné?
Mais je ne suis pas du tout.
Ce sera mercredi pour le vote de confiance. Mercredi pour le vote de confiance sur l'épidémie, il n'y aura que les députés Renaissance.
D'accord avec vous. Laissez-moi vous dire pourquoi. Parce que d'abord, si on avait vu nos députés avec des masques, alors là, je me serais dit non, mais là, on est chez les cinglés. Je suis désolé. C'est quand même le moindre qu'on voit le visage
des masques.
Non, mais se serrer la main, si vous voulez, excusez-moi, c'est plus important. De toute façon, à mon avis, si vous voulez, il va y avoir un nombre X de gens qui vont l'attraper, oui, c'est
évidemment.
Bien triste.
Ah oui, mais...
Et qui l'ont déjà
attrapé. Se serrer la main, c'est un geste qui, pour moi, est très important. Ça fait partie de la convivialité importante. C'est un geste humain. D'ailleurs, on a beaucoup commenté la non-poignée de main du jeune...
Oui, mais c'était
un Boyard. Mais bien sûr.
Non, mais c'était un
oui,
geste.
Mais si on l'a commenté, c'est parce que pour nous, la poignée de main, c'est se reconnaître...
Non, c'est surtout parce qu'on lui a tendu la main et qu'il l'a, et qu'il a mis un vent, comme on dit.
La poignée de main, c'est se reconnaître comme faisant partie de la même humanité, de la même communauté.
Conclusion.
Et c'est très important.
Conclusion, on a beaucoup de thèmes à aborder. On va aborder justement la politique dans 5 minutes. Dans 2 minutes.
Je reprends les propos d'Elisabeth Lévy quand elle dit les pays qui ont fait le choix du zéro Covid, excusez-moi,
on a vu comment ça s'est passé.
Exactement, plutôt négatif, puisque la Chine, il y a eu une recrudescence de Covid.
Le Japon, vous rigolez pas, le Japon, la Nouvelle-Zélande.
La
Nouvelle-Zélande,
ils ont été paralysés, mais ils n'ont pas eu en fait d'aussi graves problèmes que nous.
Moi j'ai entendu le contraire en Australie également. Donc soyons responsables et vivons avec.
Voilà, juste.
Je suis d'accord.
Je voudrais une dernière info dans le volet santé avant de parler politique. On va retrouver Jeanne Cancard dans une minute. Avant, sachez juste que l'OMS a appelé aujourd'hui à une action urgente contre la variole du singe en Europe. Elle est de retour face au triplement des cas observés depuis 2 semaines sur le continent. Selon les données de l'agence, l'Europe compte désormais plus de 4500 cas confirmés en laboratoire. En France, 500 cas ont été confirmés au 30 juin 2022, principalement en Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, selon Santé publique France.
C'est quoi l'action urgente ? Il y a un vaccin ?
C'est de faire en sorte de faire attention. Je ne sais pas ce que c'est. On l'attrape comment ? On avait une petite infographie de l'OMS, je crois, avec Benjamin Haneau. Non, parce que justement, ils expliquent, je crois, ce qu'ils veulent. On va me répondre ou pas en régie.
Si vous voyez un singe.
Si, les pays européens. Regardez, je l'ai. Les pays européens doivent augmenter leurs efforts dans les prochaines semaines et mois pour éviter que la variole du singe ne s'installe dans une zone géographique plus grande. Une action urgente et coordonnée est impérative si nous voulons changer de cap dans la course contre la diffusion de cette maladie. Voilà. Bon, ça en dit pas plus. Allez, 20h15 quasiment, Jeanne Cancard pour l'actualité.
À Kiev, les écoles vont rouvrir en septembre pour la première fois depuis le début de l'invasion russe le 24 février dernier. Les environs des bâtiments seront inspectés pour garantir la sécurité des élèves et des abris anti-aériens dans les écoles seront approvisionnés en eau et médicaments. En France, à l'hôpital, plus de 10% des 460 maternités sont actuellement en fermeture partielle. Faute de soignants, les professionnels sont contraints de réduire la voilure en supprimant des consultations et en fermant des lits. Des chiffres sans doute inférieurs à la réalité puisque que sur le total des maternités en France, seuls 122 ont répondu à l'enquête menée par syndicats et associations. Et c'est le Belge Yves Lampaert qui remporte la première étape du Tour de France. Il endosse ainsi le maillot jaune grâce à sa victoire de la course contre la montre dans les rues de Copenhague. Tadej Pogacar, le double tenant du titre, lui, décroche la troisième place de l'étape.
La grande boucle qui est de retour.
Mais c'est le Tour de France, ça se passe à Copenhague et en plus c'est un Belge qui remporte la première étape.
Bah déjà les Belges ils sont très très bons en cyclisme si vous vous renseignez un petit peu.
Mais expliquez-moi pourquoi le Tour de France se passe à Copenhague.
Parce que le Tour de France, alors je vais vous expliquer un truc chère Elisabeth, déjà le Tour de France c'est magnifique. C'est un des trois événements les plus suivis sur la planète à la télévision. C'est le dernier événement sportif gratuit dans notre pays. Vous allez au bord des routes, vous passez la journée et c'est formidable. Et pourquoi est-ce que le départ est à Copenhague? Parce que vous avez tous les ans des villes qui sont candidates, parce que c'est un événement qui rayonne dans le monde entier et dans l'espoir et le besoin de se diffuser au plus grand nombre, eh bien on va.
Ce qui est marrant, c'est qu'il y a des villes en France qui le refusent.
C'est rare. C'est les verts écologie, les verts.
Il y a des questions d'argent. Il y a des questions d'argent. Ça coûte très cher
d'être ville hôte du Tour de France. Et donc, quand vous avez une grande capitale européenne comme ça.
Il a besoin d'argent et il va chercher cette manne dans un pays.
Exactement.
Qui est, je crois, le pays où il y a le plus grand nombre de cyclistes en Europe. Bien sûr. Le Danemark.
Le Danemark, les Pays-Bas.
La Hollande.
Non, mais c'est
eux. C'est plus grand.
La Hollande, mais. Enfin, bon, qu'un des deux.
Allez, on va revenir en France, si vous le voulez bien. On connaîtra lundi ou mardi le nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne après le désaveu des législatives. La Première ministre a retrouvé le chef de l'État aujourd'hui pour faire le point après plusieurs jours de consultation avec les responsables des partis d'opposition. À quoi s'attendre? Élodie Huchard nous en dit quelques mots.
Le président de la République est de retour sur le territoire national. Il peut donc s'occuper du remaniement parce que c'est bien lui, évidemment, qui est aux affaires. Un membre de son gouvernement nous disait, je le cite, « Il reste la pièce maîtresse, il va être à la manœuvre. On le voit, il est très offensif, d'autant plus que la Première ministre est affaiblie. » Alors l'option la plus probable en termes de calendrier, ce serait un nouveau gouvernement lundi, mardi les passations de pouvoir et puis mercredi, conseil des ministres, puis le gouvernement assistera au discours de politique générale. Option numéro 2, attendre ce fameux discours. Pourquoi ? Parce que si Elisabeth Borne veut engager un vote de confiance, elle a tout intérêt à s'assurer un maximum de votes au sein de l'Assemblée nationale et donc à ne pas faire sortir des députés lors de ce remaniement. De toute façon, ce remaniement est obligatoire pour plusieurs raisons. D'abord, il y a 4 ministres à remplacer, 3 parce qu'elles ont perdu aux élections législatives. C'est le cas de Brigitte Bourguignon, Amélie de Montchalin, Justine Bénin. Et puis, Yaël Braun-Pivet est devenue présidente de l'Assemblée nationale. Il faut donc la remplacer. Autre chose, on sait aussi qu'il y a un certain nombre de portefeuilles qui ne sont plus attribués. Par exemple, on peut citer le logement, la ville ou bien encore les transports. Et puis évidemment, il y a 2 cas plus particuliers à régler. Ce sont celui de Damien Abad et de Chrysoula Zakharopoulou. Ils ont été visés par une plainte. Vont-ils sortir du gouvernement, ce qui créerait un précédent? La présomption d'innocence sera-t-elle respectée comme ça a été le cas jusqu'à maintenant? Et donc le président de la République pourrait les conserver à leur poste. Tout autant de questions qu'Elisabeth Borne a aussi tenté de trancher toute cette semaine avec les présidents des groupes parlementaires. Réponse donc a priori en début de semaine.
Entre les ministres défaits aux législatives, ceux qui font désordre, l'équipe douloureusement mise en place le 20 mai dernier doit déjà être remaniée. Il va pas falloir se louper, Patrick Roger.
Oui, c'est un casting relativement important, puisqu'on a déjà dit que le premier casting avait été un peu loupé.
Ah, c'est moins qu'on puisse dire.
Voilà, en tout cas, si on en juge par les résultats ensuite aux législatives, puisque Emmanuel Macron voulaient.
Regardez ceux qui sont sûrs déjà, celles, puisque ce sont quatre femmes, celles qui sont sûres d'être remplacées, celles qui ont été battues aux législatives, Brigitte Bourguignon, Amélie de Montchalin et Justine Bénin, et Yael Braun-Pivet, puisqu'elle était ministre des Outre-mer, mais elle a remporté la présidence de l'Assemblée nationale, donc quitte également son poste. Il y a quatre ministres sûrs et certains qui seront remplacés. La question que tout le monde se pose, évidemment, c'est celle de Damien Abad et de Chrysoula Zakharopoulou, qui sont deux cas que l'on va dire problématiques.
C'est pas les mêmes.
C'est-à-dire, oui, en termes d'image pour Damien Abad, sinon ça restera. Et ça, c'est extrêmement complexe à gérer. Alors, en même temps, le sortir de ce gouvernement, c'est directement l'accuser totalement, quoi, et quasiment le condamner. Donc, c'est extrêmement difficile.
Et en même temps, pardon de le dire de cette façon, mais c'est une occasion en or pour Elisabeth Borne ou Emmanuel Macron.
Bien sûr. Non, puis l'autre difficulté, c'est quand même de présenter un gouvernement d'action, entre guillemets. Puisqu'on nous annonce un gouvernement d'action. Donc,
mais ça, moi, j'ai toujours pas compris parce que je connaissais pas les gouvernements d'inaction. Gouvernement d'action, donc, ça ne parle pas des masses.
Ça fait quand même deux mois, je crois qu'il y a beaucoup d'interlocuteurs dans le domaine du logement, dans le domaine du transport. Enfin, il y a énormément de secteurs. Et aujourd'hui, la santé, puisque la ministre de la Santé a été battue, qui attendent, qui sont désespérés. Ça fait deux mois de flottement au plus haut niveau, et y compris dans les ministères où eux-mêmes, ils n'ont pas d'ordre et ils vont partir. Vous imaginez, ça fait finalement 4 mois de flottement.
Depuis l'élection.
Pardon, mais depuis 24 avril, finalement. L'argument est un peu réversible parce que qu'aurait-on dit, alors je parle du mois avant les législatives, si un gouvernement avait commencé, si vous voulez, à prendre de grandes décisions, des lois qui nous engagent, engagent pour les 5 ans à venir.
Ça aurait envoyé un signal fort de gouvernement qui se met au travail.
Avant les législatives, ça aurait été compliqué. Mais non, je comprends. Et on va voir d'ailleurs si Patrick a de l'influence, parce qu'il a été l'un des premiers sur ce plateau, je crois, à remarquer qu'il n'y avait pas de ministre du logement.
Oui, alors c'est vrai.
Mais excusez-moi pour répondre à votre question. D'abord, vous mettez.
Sur qui
deux
Sur
cas,
Damien Abad.
Vous mettez deux cas en parallèle. Excusez-moi, l'accusation de viol.
Alors, je vais préciser à nos téléspectateurs, Damien Abad, au ministère des Solidarité de l'autonomie, est visé par une enquête pour tentative de viol. Il est accusé de violence sexuelle par trois femmes différentes. Pour Chrysoula Zakharopoulou, la secrétaire d'État en charge du développement de la francophonie, elle est visée par deux plaintes pour viol dans le cadre de sa pratique médicale en gynécologie et une plainte pour violence sans incapacité de travail.
Excusez-moi, ça m'a l'air assez fumeux.
Ce sont deux cas problématiques.
À cette dame dont je n'arrive pas à retenir
Chrysoula Zakharopoulou.
Zakharopoulou, c'est plutôt qu'elle est ministre de la francophonie et que son français n'est pas absolument limpide. Je trouve ça quand même assez étrange. Je l'ai entendu parler.
Elisabeth, voilà.
Mais je suis désolée, on nomme pas la francophonie quelqu'un pour qui la langue française n'est pas... Enfin, excusez-moi, ça me paraît aberrant, je suis navrée de le dire.
Vous parliez grec aussi bien qu'elle parle français, je pense que vous seriez ministre de la...
Donc ce que je dis, c'est n'importe quoi, c'est tout à fait normal. D'accord. Bon, mais maintenant, cette accusation de viol contre elle, là, on est tombé sur la tête, si vous voulez. Parce que quand vous allez chez votre gynéco, qu'effectivement votre gynéco vous touche, ça paraît, c'est même pour ça que vous y allez. Donc que ce soit désagréable, oui, mais si vous voulez, on est chez les dingues, on est tous des victimes, je sais bien, mais enfin bon. Damien Abad, moi, je dois vous l'avouer, et c'est pour ça que je me permets de le dire avant vous, comme ça vous allez me répondre. Vous allez me dire ce que je pense.
Je vais vous dire aussi ce que
parce que pense. Non, parce que d'un côté, je suis quand même, si vous voulez, très attachée, vraiment, à la présomption d'innocence et au fait que c'est la justice qui doit décider, pas les médias, etc.
La question, c'est est-ce que c'est la morale ou est-ce que c'est le droit qui
dicte. D'un autre côté, je ne suis pas débile et je vois bien que pour le pouvoir... C'est très compliqué parce que vous allez avoir nos manifestantes professionnelles qui vont lui coller aux fesses. Donc,
alors justement, en parlant de manifestantes professionnelles,
parce qu'en fait,
vous savez que Sandrine Rousseau a prévu le chahut à chaque fois que Damien Abad prendra la parole sur le banc des ministres. Écoutez sa réaction et avant elle, celle de Julien Bayou. Donc sur le cas précis, Damien Abad doit-il rester ou pas ?
Il y a la présomption d'innocence pour tout le monde. Et puis, il y a le devoir d'exemplarité des ministres. Et je fais vraiment le distinguo. Il fut un temps, il y avait une jurisprudence qui disait que si un ministre était mis en cause, il devait démissionner, non pas par infamie, mais pour pouvoir se défendre devant la justice et éventuellement être blanchi. Et qu'il n'y ait pas le sentiment, vous voyez, que le gouvernement tergiverse ou peut le protéger. Plus simple, c'est qu'il se mette en retrait, qu'il démissionne, que la justice puisse faire son travail en toute sérénité. Et qu'ensuite, On avise sur sa situation.
Mais la présomption d'innocence n'empêche pas le principe de précaution. C'est ça le truc. C'est qu'en fait, là, on a vécu un mouvement mondial qui s'appelle MeToo. Et depuis, on a l'impression que la parole des femmes ne compte toujours pas. Il y a une procédure qui est quand même assez simple. C'est-à-dire que dès lors qu'on a un témoignage direct d'une personne, ou dès lors qu'on a connaissance d'une procédure judiciaire qui a eu lieu, on sait que les plaintes sont massivement classées sans suite dès lors qu'il s'agit de violences sexuelles en France. Donc en fait, le classement sans suite n'est pas signe d'innocence.
Le risque quand même pour Emmanuel Macron, c'est de créer un précédent en éjectant des ministres qui ne sont pas condamnés.
Tout à fait. C'est le risque. D'autant que moi, je distingue deux choses que vous disiez, c'est-à-dire qu'il faut distinguer le droit et le volet politique. Alors, le droit
et après, la morale même. Oui, qu'est-ce qui doit dicter
les victimes ou non ? Pas ce qui s'est passé, la morale.
S'il vous plaît, je peux intervenir.
Pardon, Najwa.
Donc, au niveau du droit, présomption d'innocence, bien sûr, on est dans un état de droit. À partir du moment où vous n'avez pas de preuves, c'est compliqué, puis on ne connaît même pas l'issue des plaintes, parce que en effet, ces deux ministres, il y a des plaintes qui sont déposées, mais on n'en connaît pas l'issue. Ça peut se terminer par un classement sans suite, donc on n'en sait rien. Alors là, on va voir ce que le président va décider, mais il ouvrirait une jurisprudence et un risque, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une rumeur qui s'installe, attention, je vais me répéter, attention au tribunal médiatique, attention au tribunal des réseaux sociaux. Après, il y a le volet politique. C'est vrai que ces rumeurs donnent une image qui déstabilise quand même. Vous parliez de manifestations, d'associations pour accueillir certains ministres, et notamment le ministre de l'Intérieur en a fait les frais. D'ailleurs, la plainte le concernant a été classée sans suite. Donc tout ça pour dire qu'il y a le droit, il y a la présomption d'innocence, il faut se méfier du tribunal médiatique. Et
qu'est-ce qu'il doit faire alors, Emmanuel Macron ?
Ça fragilise quand même l'image du
gouvernement.
Simplement,
Damien Abad. Est-ce que Damien Abad doit rester au gouvernement, oui ou non ?
Moi, personnellement, c'est du coup l'avocate qui parle. Tant qu'on n'a pas l'issue de la plainte, c'est-à-dire, ils doivent rester au gouvernement. Alors, c'est la présomption d'innocence qui doit primer.
On a entendu votre position. Si vous avez encore. On n'a pas entendu Kevin Bossuet, peut-être qu'on en refait une ou deux minutes en sortie de pub, mais on a encore plein de thèmes à aborder. La pause et l'heure des Pro 2 revient. 20h30 pile, l'actualité avec Jeanne Cancard.
Après les consultations, vient l'épreuve du feu pour Emmanuel Macron et Elisabeth Borne. Tous deux s'apprêtent à remanier le gouvernement. Un exercice de funambule qui doit tenir compte des nouveaux équilibres à l'Assemblée nationale où la Première ministre présentera son projet mercredi 6 juillet. Le remaniement qui devrait donc avoir lieu en début de semaine, lundi ou mardi prochain. La guerre en Ukraine a propulsé l'inflation européenne à un nouveau record en juin dans les 19 pays de la monnaie unique. Le taux d'inflation s'établit à 8,6% sur un an, alors que les ménages sont déjà confrontés à la flambée des prix de l'énergie. De son côté, la France insoumise demande une commission d'enquête parlementaire pour comprendre les origines de l'inflation après les doutes exprimés par Michel-Édouard Leclerc sur certaines hausses de prix qu'il estime suspectes. Face à la guerre en Ukraine, la Norvège annonce un don de près d'1 milliard d'euros à Kiev, une aide qui doit servir à l'aide humanitaire, la reconstruction du pays et les achats d'armes. L'annonce a été faite aujourd'hui à l'occasion de la visite du Premier ministre norvégien dans la capitale ukrainienne.
On dit un dernier mot sur ce remaniement qui se profile lundi ou mardi et l'éviction ou pas de Damien Abad, Elisabeth Lévy et Kevin Bossuet. Vous vouliez dire un dernier mot. Je vais juste rappeler que le 22 mai dernier, mais on conclura avec Kevin parce que ce sera lourd d'enseignement, j'en suis sûr. Le 22 mai dernier, Elisabeth Borne qui a dit qu'en cas de nouveaux éléments, elle tirerait les conséquences. Elle s'est un peu mise toute seule en difficulté, en fait, parce qu'il n'est pas mis en examen. Mais il y a de nouveaux éléments. Finalement, elle n'a pas trop le choix.
J'étais hésitante au début et je voulais dire que j'avais été convaincue à la fois par l'argumentation limpide de Najwa, mais aussi par l'argumentation de Sandrine Rousseau, parce qu'en fait, c'est terrifiant. Quand elle vous dit un classement sans suite, ça ne veut pas dire que vous êtes innocent. Donc, Sandrine Rousseau, à partir du moment où une femme a parlé, alors là, c'est l'évangile. Donc, on doit tous s'écraser et condamner. Eh bien, non. Donc, je crois vraiment... et alors, en plus, politiquement, je n'ai quand même pas énormément de sympathie ou d'admiration pour la façon dont M. Abad s'est comporté. Mais...
ça peut devenir
une arme politique terrible, sinon, si vous voulez, si on commence à céder. Donc il ne faut pas céder, je rejoins le camp de la fermeté.
Donc pour Najwa El Haïté, Elisabeth Lévy doit rester au gouvernement. Pour vous, Kevin Bossuet, Damien Abad doit-il rester au gouvernement ?
Oui. Enfin, voilà, le tribunal médiatique, ça va bien 5 minutes. Mais de manière générale, je pense que les Français s'en fichent du destin personnel de Damien Abad. Ils veulent un gouvernement qui est représentatif de ce qu'est devenu la société française.
C'est pour ça qu'il a été réélu aussi, peut-être.
Lors des dernières élections législatives, on a vu deux choses. La défaite de la technocratie macroniste et la défaite de l'aile gauche de La République En Marche. Donc, à partir d'un moment, si Emmanuel Macron veut se réconcilier avec les Français, il faut qu'il droitisse sa politique, qu'il droitisse son discours et qu'il fasse appel notamment à des hommes de terrain. On parlait du logement tout à l'heure, je pense par exemple à François Jolivet. Pourquoi pas faire appel à des élus de terrain comme Carl Olive, hein. Par exemple, je veux dire, à un moment donné, enfin, il y en a marre. Il faut en finir avec le « en même temps, nous avons besoin d'une vision claire pour notre pays, nous avons besoin d'une ligne directrice ». Et depuis 5 ans, Emmanuel Macron, un coup à gauche, un coup à droite, et à la fin, il y a une seule perdante, c'est la France. Ben, il y en a marre, on veut un cap.
Mais en tant que futile de savoir, je vous avais dit que ce serait bien.
Il a été très drôle. Tiens, revenons. L'intervention d'Emmanuel Macron quand il nous a dit, ça c'était la blague du siècle, quand il a dit, vous m'avez élu le 24 avril sur un projet clair.
Ah oui, ça.
Toute la France a éclaté de rire.
Oui, bah, surtout vous, Elisabeth.
Moi aussi.
Bon. Retour rapidement sur l'élection d'Éric Coquerel hier à la très convoitée présidence de la commission des finances de l'Assemblée. Éric Coquerel, c'est un profil qui divise. Jordan Bardella, la présidente du RN, était ce matin l'invité de Laurence Ferrari. Il dénonce l'idéologie du nouveau président de cette commission des finances. Écoutez.
Monsieur Coquerel est un militant qui marchait en novembre 2019 et qui a d'ailleurs poussé toute la France insoumise. C'est lui qui a impulsé ce mouvement islamo-gauchiste à la France insoumise et allait marcher à côté du CCIF dans cette marche de la honte qui s'est tenue en novembre 2019. Et c'est quelqu'un d'ailleurs dont l'assistante parlementaire a tweeté il y a quelques mois, ça avait fait polémique, expliquait que la France était un pays de fascistes et elle disait que les Français aillent niquer leur mère, je cite. Donc l'idéologie de la France insoumise est une idéologie dangereuse. Je crois qu'ils veulent faire de l'Assemblée nationale une ZAD. Et on le voit d'ailleurs avec le comportement qu'ils ont.
Patrick Roger, cette idéologie dénoncée par Jordan Bardella, elle peut vraiment avoir un impact sur la façon de gérer la commission des finances?
Au-delà de l'idéologie, c'est probablement le spectacle qu'on risque d'avoir, quoi, avec des obstructions, des coups de théâtre en permanence à l'Assemblée nationale. Alors vous allez me dire, c'est ce qui se passe un peu dans la société. Il est préférable peut-être de voir ça sur les bancs de l'Assemblée nationale que dans la rue, parce que sinon, on dit qu'on pourrait avoir le chaos dans la rue. Beaucoup prédisent une sorte de délitement et d'effondrement, en fait, du parti. Et il y en a qui ont une vision très pessimiste, en fait. Je recevais, moi, Henri Guénaud ce matin. Alors, Henri Guénaud, il n'est pas connu pour être un optimiste du matin au soir. Mais, tout de même, il a quand même un discours de réalité et là ce qu'il craint à travers ça, au-delà donc de l'idéologie d'Éric Coquerel, c'est qu'on aille en permanence dans un spectacle en fait de coups, d'obstruction, d'arrêt et la France...
Mais Éric Coquerel a voulu rassurer, il a dit je ne mènerai pas une chasse aux sorcières...
Oui, mais alors ça c'est le discours de façade quoi. Et il a mis une cravate.
Et puis il est pas tout seul à la commission des finances non plus. Il est pas tout seul à la commission des finances. Il y a des garde-fous. Ça peut pas être tout et n'importe quoi non plus.
Mais c'est vrai que on dit. Alors il faut savoir.
Parce qu'on peut entendre la posture du RN qui est déçu de pas avoir mis Jean-Philippe Tanguy, mais on peut aussi être dans le réalisme et se dire bon, il y a quand même des garde-fous dans cette commission des finances. Ça va pas être le grand n'importe quoi. Tout va.
Non, moi ce qui m'a scandalisé en tant qu'homme de droite. Puisque je suis de droite.
C'est la lâcheté de la droite
qui a
permis...
C'est la lâcheté véritablement des Républicains. Si les Républicains sont incapables de faire la différence entre un type qui se situe entre Robespierre et Trotsky et de l'autre côté un Jean-Philippe Tanguy qui est un gaulliste authentique, qui est un vrai Républicain, qui a des connaissances en matière de finances, je trouve que cette droite n'a plus lieu d'être. Cette droite est en train de mourir parce que c'est devenu une droite honteuse, une droite qui n'a plus de valeur. Moi, j'en ai marre de ce parti les Républicains qui n'est que finalement de la soumission à Emmanuel Macron. Et encore, quand ils ont le poids politique d'imposer des choses à Emmanuel Macron, ils refusent même d'y aller. La droite est morte parce que cette droite est une droite qui refuse de se dire de droite. Quant à Éric Coquerel, mais il faut voir qui est cet individu qui a participé à la marche contre l'islamophobie aux côtés d'associations islamistes, qui est un pro-palestinien féru, un type qui finalement qui a la haine des riches, qui a la haine des entreprises, qui a la haine de l'argent, qui a soutenu les sans-papiers quand ils étaient dans la cathédrale de Saint-Denis, ben moi ce n'est pas l'idée que je me fais de la République et je pense que Éric Coquerel n'a pas grand-chose de républicain, du moins par rapport à ma conception de la République.
C'est ce qu'on s'appelle être habillé pour l'hiver. Ouais. Sur la première partie de la réponse de Kevin Bossuet, cette trahison, entre guillemets, de LR selon vous, c'est un petit peu le ton abordé par Sébastien Chenu également aujourd'hui. Écoutez-le et Elisabeth, bien sûr, je reviens vers vous.
Moi, je pense que c'est politiquement un signal très dangereux qu'a envoyé LR à ses électeurs, disant qu'il préfère faire élire Éric Coquerel à la tête de la présidence de la Commission des Finances. Et on a vu une majorité qui n'a pas voulu, avec une espèce de passivité, qui n'a pas voulu s'en mêler, laissant encore Éric Coquerel, c'est-à-dire trahissant l'esprit de ce règlement. Non, mais ça veut dire qu'en fait, ils ont préféré tout trahir, les LR, leurs électeurs en particulier, la majorité, l'esprit du règlement de l'Assemblée nationale, et faire élire Éric Coquerel.
Elisabeth.
Oui, non, je suis absolument.
C'est de la lâcheté de la droite qui s'étire une balle dans le pied.
Non, mais ce qui est très. Je ne sais même pas qu'ils soient. Ils ne sont pas soumis, en l'occurrence, à Emmanuel Macron, parce qu'Emmanuel Macron est aussi soumis à cet absurde chantage. C'est-à-dire que moi, je crois que si on regarde les faits, si vous voulez, aujourd'hui, le RN est un parti parfaitement républicain qui s'est comporté de façon extrêmement républicaine dans les premiers jours de l'Assemblée. Ils n'ont pas voulu faire les flambards. Ils sont arrivés en costume cravate. Ils ont dit qu'ils respectaient les institutions. Ils les respectent.
Donc, Marine Le Pen a rappelé qu'elle ne ferait pas de barrage à tout prix.
Il y a effectivement un parti qui conteste en permanence la République, les institutions de la République. J'ajoute quand même, vous avez dit qu'il était pro-palestinien, il a quand même soutenu, il demande la libération de Georges Ibrahim Abdallah, qui est un terroriste condamné en France. Donc, si vous voulez, tout ça, effectivement, ce qui me frappe, j'ai lu l'édito du Monde en diagonale tout à l'heure, et ils en sont encore là. C'est-à-dire qu'on nous fait encore le cinéma du Front républicain contre le méchant Rassemblement national. Mmh. Je me dispute avec mes amis de gauche là-dessus, parce que je leur dis, mais
vous avez des amis de gauche, vous ?
Bien sûr. Mais, oh, pourquoi
je vous taquine, Elisabeth, par exemple.
J'ai pas que des amis qui pensent comme moi, heureusement.
Mais ne vous arrêtez pas là-dessus.
Parce que je suis pas de gauche,
allez-y.
Justement. C'est parce que je suis pas de gauche que j'ai pas que des amis qui pensent comme moi. Voilà. Voilà. Donc, non, mais ce qui me frappe, si vous voulez, c'est qu'il y a une espèce de ritournelle qui est à vide, qui marche à vide. On nous explique que d'un côté, il faut faire barrage à un parti sans nous dire pourquoi. Et le Monde, qui donne des leçons de maintien, mais qui ne trouve pas que, si vous voulez, les insoumis soient, eux, infréquentables. D'ailleurs, ils ne le sont pas tous. Et moi, ils ont été élus. Bah,
c'est de l'antifascisme.
Alors, Najouel a été. Juste pour conclure et pour être très pour être très exhaustif autour de ce qui plane et ce qui se dit autour d'Éric Coquerel, élection entachée par des rumeurs sur son comportement avec les femmes. Le comité contre les violences sexuelles de la France insoumise, et c'est pour ça qu'on en parle, parce que la France insoumise a réagi officiellement, est monté au créneau hier soir pour défendre le député. L'instance assure n'avoir jamais reçu de signalement à son sujet. On parle donc exclusivement de rumeurs à ce stade. Najouel a été. Dernier mot sur Éric Coquerel.
Moi, je vais plutôt rebondir sur ce que parce que j'ai tout dit
oui,
sur la présomption d'innocence. Je ne vais pas y revenir.
Non, mais c'est juste, c'est pas vous faire.
Concernant les propos de Sandrine Rousseau, je trouve qu'elle a, elle a une réponse à géométrie variable concernant les agressions sexuelles possibles ou les violences sexuelles. Ça dépend en effet de la personne
qui est touchée, qui est visée.
Non, moi, je rebondis rapidement sur ce que vient de dire Kevin Bossuet et Elisabeth Lévy, qui sont extrêmement sévères avec la droite. Moi, je serais extrêmement sévère avec le Parti Socialiste. Pourquoi ? Parce que le Parti Socialiste, excusez-moi, avait une candidate de qualité, Valérie Rabault. Il aurait dû la soutenir. Il aurait dû se mettre derrière elle.
Mais techniquement, il n'avait pas la majorité. Techniquement, on accuse assez vite. Alors bon, le PS aurait pu la soutenir, mais sauf qu'il n'avait pas suffisamment de membres à la commission. Donc il ne pouvait pas.
Non, ça se jouait entre Éric Coquerel et Jean-Philippe Tanguy.
Ils ont
essayé de rappeler à la raison. Bon. Sauf que
ils se sont mis à genoux devant LFI il y a un mois. Sûr. Pourquoi est-ce que maintenant ils montreraient les muscles
Sauf que la responsabilité.
Comment je regrette leur soumission.
Ah, ils ont acté leur soumission. Vous avez raison.
Sauf que maintenant ils ont été élus, ils pourraient très bien.
Ben oui, mais ils ne le font pas.
Je peux dire un mot.
Et vraiment le dernier.
Sauf que techniquement. Emmanuel Macron, là, pour le coup, et Renaissance a bien joué. Parce que le choix politique... Renaissance n'était pas obligée de s'abstenir.
Oui, mais c'était la tradition.
Mais c'est une tradition. C'est faux. En 2017...
Depuis 2007 avec Nicolas Sarkozy.
Mais 2017, il n'y a pas eu ça. Tout le monde a voté en 2017. Il n'y avait qu'un seul candidat. C'était Migaud. Alors qu'il pouvait s'abstenir et faire barrage.
On va refermer le volet politique. Il nous reste quelques minutes pour vous parler de nouveau de cette histoire très marquante. On vous parle depuis hier de cette jeune femme femme, Karine, qui a lancé ce cri de détresse sur CNews. Elle se sent trahie par la justice parce que mercredi, elle a assisté au procès de son agresseur, un chauffeur de taxi inculpé pour le viol de 3 femmes, dont elle, en 2016. À la fin de l'audience, elle l'a vu repartir libre. On l'a beaucoup entendu, Karine, et on en a parlé hier. Aujourd'hui, c'est la maman de Samantha, elle aussi Samantha, violée par ce chauffeur de taxi, qui a exprimé son incompréhension, son immense déception. Écoutez-la.
C'est compliqué. Oui, non, ma fille va très très mal, ça c'est évident. Elles ont témoigné toutes les deux. Hein, ma fille restait 1h30, je crois, à la barre pour témoigner. Moi, j'ai pas pu, elle a pas voulu que j'assiste à tout le procès. Juste, je suis allée pour le verdict. Donc, j'ai pu voir cet homme juste au verdict et qui a bien préparé son coup, hein, pour pouvoir avoir cet aménagement de peine en faisant une famille, en ayant un enfant. Donc, c'est sûr, ben, ça, les jurés, ben, ils sont sensibles à ça, quoi. Moi, je veux qu'il aille en prison. Hein, parce que le voir sortir libre, en étant sur les 3 chefs d'accusation coupables, 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 le jury populaire, il y avait quand même 2 magistrats, ils ont peut-être été guidés, mais il a été reconnu coupable sur les 3 faits. Donc il n'y a aucun doute là-dessus.
Je rappelle que cet homme est donc condamné pour viol, agression sexuelle sur 3 femmes à 6 ans de prison, dont 2 fermes. Mais au jeu des aménagements de peine, il est ressorti libre de la cour d'assises sous les yeux de ses victimes. C'est insupportable pour elle et on l'entend tout à fait, Kevin.
Mais c'est insupportable. C'est même, je vais peut-être un peu être caricatural, mais c'est même un permis de violer. Parce qu'aujourd'hui, quand on viole quelqu'un, finalement, on fait très peu de prison. Enfin, j'ai l'impression que notre justice en France est toujours du côté des coupables et presque jamais du côté des victimes. Le but de la justice, c'est de protéger évidemment l'ensemble des citoyens et les buts de la justice, c'est de permettre aux victimes, en effet, de se reconnaître dans une décision, avoir le sentiment, finalement, que justice a été faite. Évidemment qu'on n'en est pas là. Et j'aimerais rappeler aussi que la justice est financée par les Français et rendue au nom du peuple français. Et à partir du moment où les Français ont le sentiment, finalement, que cette justice ne rend pas des peines à la hauteur, c'est l'ensemble de notre société qui s'écroule et du pacte républicain qui s'écroule. Et là, c'est grave.
Chacun va en dire quelques mots, évidemment, mais les 20h45, pile Jeanne Cancar, et on continue de parler de cette histoire.
Pour ce premier week-end de vacances d'été, le trafic aérien s'annonce perturbé. Un nouveau mouvement de grève ralentit le fonctionnement de plusieurs aéroports à Paris, dont celui de Roissy-Charles de Gaulle. 1 vol sur 5 est annulé demain matin. À l'origine de cette mobilisation, les employés qui dénoncent des conditions de travail dégradées et qui réclament des hausses de salaire. C'est un nouveau départ entre la France et l'Australie après la crise des sous-marins. Emmanuel Macron et le nouveau Premier ministre australien se sont rencontrés aujourd'hui et ont affirmé ensemble leur volonté de rétablir la confiance entre les deux pays, gravement abîmés par l'annulation par Canberra d'un gigantesque contrat d'achat de 12 sous-marins français. Face à l'envolée des cas de la varole du singe en Europe, l'Organisation mondiale de la santé appelle à l'action urgente. En 2 semaines sur le continent, le nombre de cas a triplé. En ce moment, 4500 personnes sont atteintes par ce virus.
Et juste pour qu'on comprenne bien la motivation de la Cour, a priori, pourquoi est-ce qu'il est ressorti de ces 2 ans ferme avec un aménagement de peine ? Parce que la situation stable de l'agresseur, aujourd'hui l'agression, c'est 2016. 6 ans plus tard, c'est un homme qui a 1 ou 2 enfants, qui est marié, qui a un enfant de 2 ans plus précisément. Et le fait qu'il ait un emploi, tout ça a motivé a priori la Cour
un suivi
psychothérapeutique. Écoutez, non mais la question, elle est très simple. Est-ce que c'est l'homme qui a agressé ces femmes en 2016 qui doit être jugé, ou est-ce que c'est l'homme d'aujourd'hui qui doit être jugé ? Écoutez l'avocat et ensuite on fait le tour de table. L'avocat de Samantha.
Venir expliquer que cet individu n'est plus le même, finalement ce que j'entends, c'est qu'on a jugé l'individu d'aujourd'hui, on n'a pas jugé l'individu de l'époque, et finalement l'individu de l'époque n'a pas fait face à la responsabilité de ce qu'il avait commis. L'individu d'aujourd'hui prétend ne plus être le même, et on a une décision qui ne satisfait absolument personne. Ça a été mis au cœur des débats par la défense, bien évidemment, en expliquant que il ne serait plus l'homme qu'il avait été. Moi j'ai constaté d'autres choses pendant l'audience, hein, et notamment une chose marquante, c'est n'est que la 3e fois où il a été entendu, et sur question de son avocate seulement, qu'il a tenté de présenter des excuses aux victimes, en commençant par dire oui, mais je suis là pour m'expliquer. Il dit non, vous n'êtes pas là pour vous expliquer, mais pour vous. Il a dit ah oui, désolé, je m'excuse, et il est parti sur autre chose.
C'est intolérable.
Bon, alors d'abord, évidemment, notre premier mouvement quand on a vu cette vidéo, c'est évidemment d'abord, et même notre deuxième, c'est d'avoir de la compassion pour les victimes et d'espérer qu'elles iront mieux. Mais moi, excusez-moi, je voudrais dire mon désaccord sur deux points. La première, la justice n'est pas rendue pour les victimes. Je suis désolé, sinon ça s'appelle la vengeance. La justice, elle est rendue pour la société. Elle est rendue pour établir des responsabilités et prononcer des peines.
Dont les victimes.
On peut trouver... Non. Elle est rendue pour cela. Et on peut trouver qu'elle le fait mal, c'est très souvent notre cas, mais elle n'est pas là pour s'occuper. C'est pas ça, c'est pas ça l'objectif.
Vous ne lisez pas un échec de...
La deuxième chose, la deuxième chose que je voudrais vous dire, nous disons toute la journée ici que nous sommes contre le tribunal médiatique. Je ne dis pas mon premier mouvement, je vous le dis quand je vois. Nous n'avons entendu en réalité qu'un des points de vue, ceux des victimes. Et... Évidemment qu'on les croit, mais simplement un procès c'est contradictoire.
C'est quand même très compliqué de justifier comment cet homme a pu être remis en liberté. Je vous dis franchement, j'entends. C'est tout à fait intelligible.
Vous me demandez mon avis, je vous le donne. Excusez-moi, oui. Là vous êtes en train de me donner le vôtre que j'ai compris. Mais je vais finir, je sais qu'il faut aller vite. Je vous dis simplement, on n'a pas les tenants, les aboutissants, nous n'avons pas assisté au procès. Et donc, je suis comme vous, émue et triste pour elle. Voilà.
Il me reste 20 secondes et je ne peux pas déborder ce soir, je suis désolée.
Moi, je critique rarement les décisions de justice, mais autant vous dire que cette décision de justice m'a interpellée parce que la cour d'assises elle-même, elle parle de faits très graves.
Et le parquet a fait appel. Le parquet avait requis 12 ans et il prend 6 dont 2 fermes.
Voilà, et donc heureusement que le parquet fait appel, heureusement. Et ce qui est terrible, et c'est très juste ce que dit l'avocat de la partie civile, c'est que la cour d'assises a jugé l'homme d'aujourd'hui.
C'est ça, oui.
Qui s'est fait soigner pendant 10 ans, qui est papa d'un enfant de 12 ans qui est en couple, et c'est ça qui est terrible.
Juste en fait, c'est ça.
Un enfant de 2 ans.
La conclusion, c'est le problème aussi de la justice qui doit être beaucoup plus rapide dans l'exécution.
Exactement.
En fait. Aussi. Parce que 6 ans après, c'est pas possible.
C'est aussi pour ça qu'il y a un problème. Bien sûr. Bien sûr.
Évidemment, c'est pas du tout la même chose.
Bon, je regrette qu'on n'ait pas plus de temps.
Mais la joie m'a convaincu sur un point, c'est la discordance entre le.
Vous avez entendu la musique ?
Il est reconnu coupable.
C'est terminé.
Et la peine.
Vous pouvez débrancher. Patrick, si vous voulez juste, il y a un petit interrupteur derrière. Merci à Benjamin Anneau, Corentin Brieux qui ont préparé cette émission. Très bon week-end sur les antennes de CNews. Soir Info arrive avec Samis Faxi dans quelques minutes. Samis Faxi qu'on embrasse fort. Tiens, à tout à l'heure.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics, all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.